Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du débat politique de Radio Ndeke Luka. Nous sommes avec les jeunes leaders de la société civile et de la politique. C'est la génération montante. Nous allons dans un instant débattre des sujets d'actualité avant d'évoquer le futur du nouveau bureau du Conseil national de la jeunesse centrafricaine CNJ. En effet, le gouvernement a dissous l'ancien bureau dirigé par Pamela Derome, faute de consensus entre les membres, et un processus est en cours pour la mise en place des nouveaux bureaux. Cependant, des voix se lèvent pour critiquer l'ingérence des autorités et la caporalisation de l'organisation au profit du gouvernement. L'unique question du jour, quel avenir pour le Conseil national de la jeunesse centrafricaine? Et pour en débattre, je reçois Norbert Pounaba, président du comité d'organisation des élections du CNJ, chargé de mission en matière des associations de la jeunesse à la primature. Monsieur Pounaba, bonjour.
Bonjour Armando.
Bonjour aussi à vous, monsieur Ben Wilson Gassam.
Bonjour Armando.
Porte-parole du groupe des organisations de la société civile pour la défense de la constitution du 30 mars 2016, activiste centrafricain. Monsieur Daniel Zewé, chargé de mission au ministère de la jeunesse centrafricaine. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Bonjour aussi à vous, monsieur Lazare Kianzi.
Bonjour Armando.
Économiste et ancien leader des étudiants centrafricains, observateur de la vie sociopolitique. Monsieur, bonjour à toutes et à tous. Tout de suite, nous lançons le débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndeke Luka.
Voilà, l'actualité oblige, hein. L'état-major des armées centrafricaines a finalement réagi hier à travers un communiqué de presse suite à la prise en otage d'une vingtaine d'éléments FAKA par les rebelles à Tshikikedi dans la Vakaga. Et selon les propres termes du communiqué signé du chef d'état-major Zéphérin, Mamadou Zéphérin, le fait est considéré comme un acte terroriste. L'état-major des armées d'appeler les partenaires et la communauté internationale de tout mettre en œuvre pour parvenir à la libération de ces otages. Monsieur Zewé, que vous inspire cette recrudescence de violences armées ces derniers temps dans les régions de la République centrafricaine?
Il faut être clair sur la question parce que la recrudescence de la violence dans notre pays est entretenue par des puissances étrangères. Vous savez, lorsque Tshikikedi a été attaqué, nous avons eu tout de suite les informations selon lesquelles celui qui s'occupe du détachement militaire de la République tchadienne à notre frontière a convoyé les rebelles qui étaient repoussés la semaine d'avant au niveau de Gordil et qui se sont retranchés et qui se sont retrouvés sur le territoire tchadien. Il les a convoyés. C'est M. Ibrahim. Il les a convoyés à bord de 6 véhicules pour les déposer à 5 km de Tshikikedi, à Nda. Et cela leur a permis éventuellement d'encercler le poste avancé de l'armée centrafricaine qui se trouve à Nda, à Tshikikedi. Et c'est comme ça que les combats ont eu lieu. Étant un poste avancé et étant encerclé en effectif limité, l'armée centrafricaine, devant cet effectif accru, appuyé éventuellement par certains mercenaires, entre guillemets, parce que pour nous, on estime que si c'est le chef de détachement militaire de l'armée tchadienne qui les a déportés jusqu'à 5 km de Nda, de Tshikikedi, ça veut dire tout simplement...
Et ça, c'est une révélation, hein. C'est nouvelle.
Je sais de quoi je parle. À partir de ce moment, nous estimons tout simplement que certains éléments de l'armée tchadienne ont appuyé éventuellement cette incursion pour récupérer des éléments centrafricains, les FAKA. Pour preuve, celui qui est blessé s'est retrouvé dans un hôpital du côté tchadien, sans être inquiété, convoyé par des rebelles, traversé et emmené dans un hôpital tchadien. Et à l'instant où nous sommes en train de parler, il est en train de subir des soins sur le territoire tchadien. Et sous contrôle éventuellement des rebelles. C'est inexplicable, c'est impensable.
Mais impensable selon vous, est-ce que vous êtes en train d'accuser la diplomatie, la relation diplomatique, j'allais dire, entre la République centrafricaine et le Tchad dans ce nouveau?
Vous savez, je préfère appeler le chien par son nom et le chat par son nom. Parce que vous savez que Ndeke Luka étant audible auprès de la population, il faudrait que certaines vérités soient dites de manière à ce que la population ait la véracité des faits. Et ce que je suis en train de vous dire émane de la population de Nda, de Tshikikedi. Ça n'émane pas de moi.
Est-ce que les autorités sont au courant de...
Les autorités centrafricaines sont informées de ce que je suis en train de vous dire. Et je le dis avec énergie, avec force. sans tenir la langue de bois.
Mais on va passer la parole à chacun de nous, mais je reste avec vous pour vraiment, puisque c'est une révélation que vous avez faite en ce nouveau, est-ce que de ce qui se passe actuellement sur le terrain avec la prise d'otage, nous avons vu la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux en boucle, avec tout ce que nous expliquons, nous avons vu hein, les interlocuteurs, les assaillants parlent sango, ils s'expriment bien en sango, avec force de défense et de sécurité sur le terrain.
Lorsque vous traversez notre frontière, à plus de 50 à 100 km sur le territoire tchadien, les gens parlent sango, couramment. Je vous informe également que même du côté du Cameroun, lorsque vous traversez au niveau de Garamboulaye, vous faites 150 km à l'intérieur de Garamboulaye, les gens parlent sango. J'étais surpris parce qu'un jour, j'étais dans mon premier véhicule acheté en 2009, on était en train de venir, mon frère qui était devant moi a fait un accident à 150 km de Garamboulaye. Lorsque nous sommes descendus, les gens ont accouru pour venir auprès de nous. J'ai cru que c'était des Camerounais, puisque nous sommes en profondeur du Cameroun. Mais surpris parce que les gens étaient en train de parler sango. Vous savez, la frontière imaginaire tracée par l'impérialisme et imposée au peuple africain ne répond pas aux normes culturelles. Ça, c'est une triste réalité. Une manière de vous dire que ce n'est pas le fait de parler sango qu'on est nécessairement centrafricain, qu'on est nécessairement éventuellement du côté de la République centrafricaine. Et vous savez très bien que beaucoup de Tchadiens parlent couramment sango. Ce n'est de secret pour personne. Maintenant, dans le cas de cette rébellion, écoutez, nous n'allons pas continuer tout le temps à caresser éventuellement les gens dans le sens du poil. Il faut bien qu'un jour, on soit en mesure, en tant que peuple, de dire non à un certain nombre d'ingérences.
On va donner la parole. Monsieur Ben Wilson Gassam, je rappelle que vous êtes porte-parole du G16, mais en même temps activiste centrafricain. Cette situation actuelle, avec la prise d'otage d'une vingtaine de forces de défense et de sécurité à l'intérieur du pays, mais beaucoup plus à la frontière centrafricano-tchadienne.
Tout d'abord, il convient de m'incliner devant la mémoire des forces armées centrafricaines tuées, assassinées dans le cadre des dernières opérations militaires dans une partie de la République centrafricaine. Et aussi quand on parle de la prise d'otage d'une dizaine d'éléments des FACA, en tant que centrafricain, en tant que compatriote, ça nous fait mal. Ça nous fait non seulement mal parce que les FACA ont été pris en otage, mais ils ont été exhibés dans des vidéos à travers les réseaux sociaux. Ça, c'est une manière d'humilier notre armée. Et l'armée, c'est un symbole. Quand on parle de l'armée, on parle de l'État. Quand les FACA sont pris en otage, ils ont été exhibés dans des vidéos à travers une communication de guerre, une communication d'influence. C'est notre État qui est humilié. Mais moi, je veux pas seulement rester au niveau de faits, des faits. Je veux qu'on aille au-delà des faits. En disant cela, je veux faire remarquer ici que jusque-là, dans le cadre de la gestion de la crise sécuritaire actuelle, le gouvernement centrafricain ne fait pas dans le réalisme. C'est vrai que ce que je dis peut choquer d'une certaine manière, mais je m'explique. Il vous souviendra qu'il y a de cela quelques temps, le porte-parole du gouvernement, Monsieur Serge Diori, disait à travers toutes les ondes que l'État centrafricain a déjà reconquis plus de 98% du territoire national. Ce qui veut dire que la sécurité est rétablie sur l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui, si on parle de la prise d'otage d'une dizaine d'éléments des FACA, cela est en contradiction.
Mais ce qu'il a dit, ça a duré un mois. Peut-être après, c'est dire, il peut y avoir l'infiltration de ces éléments.
Non, Armando, on est centrafricain et ici on tient pas ce débat pour amuser la galerie. D'une autre part, lorsque nous condamnons la prise d'otage des éléments des FACA, de l'autre côté, il faut qu'on dise les vérités à nos autorités. C'est une crise sécuritaire. Quand les Centrafricains perdent leur vie, ça n'arrange personne. Ça ne peut pas me réjouir en tant que Centrafricain. Ça ne peut pas réjouir ceux qui sont avec moi autour de ce plateau. Mais moi, je pense que le gouvernement ne prend pas encore la mesure de ce que nous sommes en train de vivre. Quand vous voyez les vidéos qui circulent à travers les réseaux sociaux, le nombre d'éléments mobilisés qui attaquent les positions des FACA, qui attaquent les positions des forces alliées, on se rend vraiment compte que nous sommes en train de revenir à ce que les Centrafricains ont vécu en 2013. Et dans une pareille situation, il faut un certain sérieux de la part de ceux qui communiquent au nom du gouvernement. Et moi, je le dis que ça frustre le porte-parole du gouvernement. Je pense qu'il fait beaucoup preuve d'amateurisme lorsqu'il s'exprime sur des questions de très grande importance comme les questions sécuritaires. Vous voyez, quand je parle ici, je pèse mes mots, je fais en sorte à ce que tout ce que je dis soit encadré, parce que nous parlons de la vie des Centrafricains. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est la substance que je veux tirer de l'intervention de mon cher doyen Daniel Zewé. qui a fait savoir, hein, et c'est ça, c'est la vérité, c'est les informations que nous recevons du terrain, que lorsque les rebelles avaient attaqué les positions des FAKA, les rebelles étaient en surnombre. C'est-à-dire au côté que capacité numérique, capacité...
Même les autorités locales, hein, de Sikikédé ont confirmé.
Exactement, exactement. Les FAKA étaient en décroissance numérique vis-à-vis de l'armada des rebelles. Or, les menaces sécuritaires qui pèsent aujourd'hui, ça ne date pas de maintenant. C'est depuis toujours qu'on nous apprend que nos frontières sont poreuses, que ce soit au niveau du Tchad, au niveau du Soudan. C'était de la responsabilité de l'état-major, de la responsabilité des renseignements centrafricains de tout faire pour éviter cela. On ne peut pas jouer aux sapeurs-pompiers, attendre qu'une dizaine de centrafricains soient pris en otage, exhibés dans les vidéos et revenir dire que non, mais les FAKA n'étaient pas si opérationnels que ça. Mais moi, je pense que en matière de sécurité, pour le moment, le gouvernement ne fait pas encore preuve de sérieux. Donc, c'est les deux éléments que j'ai bien voulu...
Monsieur Norbert Pounaba, sur cette question prise d'otage, mais aussi la recrudescence de l'insécurité. On n'a pas aussi oublié ce douanier assassiné sur l'axe Bozoum-Pawa avant-hier.
À 37 km,
37
de,
km
Pawa.
De Pawa, non loin du village Leourou, juxtaposé à l'IA.
Je pense que si je dois me fier au communiqué de l'état-major du gouvernement centrafricain, il faut savoir qu'effectivement, ça, il s'agit des actes terroristes. Des actes terroristes, quand on parle des actes terroristes, même des puissances, des grandes puissances militaires au monde, parfois ne résistent pas à des manœuvres terroristes. Tu prends des pays comme les États-Unis, même la Russie, etc. Quand c'est des actes terroristes, parfois c'est des actions imprévisibles. Et dire qu'aujourd'hui, c'est parce que le gouvernement ou l'état-major centrafricain ou bien le ministère de la Défense ne fait pas son travail, je pense qu'on n'est pas à ce niveau de débat. À partir du moment où c'est des actes terroristes, il faut comprendre que, et avec la complicité et l'intelligence des puissances extérieures et également de certains qui sont même qui se disent des hommes politiques, qui contribuent d'une manière ou d'une autre à ces pratiques. Il vous souviendra qu'il n'y a pas moins de 2 ou 3 mois, il y avait déjà des hommes politiques, des soi-disant opposants, qui déjà depuis la France commençaient déjà à donner ces alertes. À partir du moment où on dit on va faire feu de tout bois, et puis ça va commencer à partir de Vakaga, etc. Mais bon, ça ne fait que attester ce que les gens ont commencé à préméditer. Ça veut dire que derrière ça, il y a des intelligences, derrière ça, il y a des complicités. De l'extérieur, il y a des complicités également à l'interne. Donc, il faut prendre en compte. Et donc, aujourd'hui, il est important que nous, qui sommes jeunes, nous devrions, d'une manière ou d'une autre, contribuer à ce que nous informons également. Quand nous sommes informés de ces genres de pratiques, de la position de ces bandits, il est important que le peuple également puisse aider l'armée. En leur donnant des informations par rapport à la position de ces terroristes, puisque parfois c'est des actes, c'est des actions qu'on ne maîtrise pas. Donc c'est important qu'également que vous soyez jeunes, que vous soyez population, si vous aimez effectivement votre pays, il est important que nous puissions nous mettre du côté du gouvernement en donnant des informations, en dénonçant également ces manœuvres que personne ne maîtrise et que nous disons qu'aujourd'hui, c'est des actes terroristes.
Oui, monsieur Lazare Kianzi.
Merci beaucoup, Armando. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'intervention des uns et des autres et tout ce que les trois intervenants ont dit ici. Je suis vraiment touché. Et d'abord, pour reprendre, je veux d'abord m'incliner en mémoire de tous ces forces qui sont tombées, de tous ces soldats qui sont tombés sur le front, qui ont perdu leur vie à cause de la nation. Ça fait mal que le pays soit humilié à un certain niveau. Et lorsque on exhibe ou on expose nos FAKA détenus dans la forêt, sur les réseaux sociaux, qui sont pris en otage, vraiment ça fait mal. Tel que vient de le dire le CM, c'est une question qui touche la République. Et lorsque la République est attaquée, on s'organise, on fait bloc. On fait bloc pour mettre en déroute l'ennemi. De la même manière que nous condamnons cet acte, de la même manière nous voulons que des responsabilités soient situées. Sur le plan interne, il faut que des responsabilités soient situées. Parce que nous sommes dans un État. Un État où il y a les organes. Un État où il y a un chef.
un État où tout fonctionne. Nous sommes un État normal. Et dans un État normal, il y a des responsabilités. Chaque personne a une responsabilité. Lorsque vous êtes nommé à un poste pour exercer, vous devez le faire en tant qu'un bon citoyen, en prenant compte la vie de ces personnes que vous mettez sur le terrain. Moi, je veux d'abord m'apesantir sur la question de la responsabilité interne de nos dirigeants ici qui ont exposé ces facas. Moi, je suis un homme de terrain. Sikike Denda, Gordil, Manouvo, tout ça, j'y étais. J'ai travaillé dans ces zones. J'ai supervisé des évaluations dans ces zones. Birao, Gordil, jusqu'à toutes ces zones-là, moi, j'ai travaillé dans ces zones. Je reviens à peine 2 semaines de Makunda. Je vous donne une révélation. À Makunda, il y a une frontière hein, avec la République tchadienne. Et c'est juste un petit cours d'eau qui sépare la RCA avec le Tchad. Et d'ici, vous regardez de l'autre côté.
Le Tchad.
Ce que vous voyez de l'autre côté, je vous assure, il n'y a rien de comparable avec ce que nous avons ici. C'est des chars, c'est un armement bien équipé de l'autre côté. Avec des
c'est
bataillons.
La sécurisation de
c'est
la frontière.
C'est la sécurisation de la frontière. De notre côté, on a juste une quinzaine de facas. La seule arme lourde qu'ils détiennent, c'est les roquettes. La seule arme lourde qu'ils détiennent, c'est au moins 4 ou 5 roquettes que moi j'ai vues de mes yeux. Et ils n'ont même pas un moyen de déplacement, même pas de véhicule. Et ça, c'est là-bas. Prenez une grande zone comme Bossangwa, qui est une grande région militaire, je pense. Et à Bossangwa, l'armée n'a pas de véhicule. Ils utilisent le véhicule du préfet pour mouvoir. Ils utilisent les motos des particuliers. Mais imaginez, on prend des facas, on les met dans ces zones, quelle que soit votre technique de combat, quelle que soit votre intelligence, quel que soit ce que vous avez. Vous n'avez pas de moyens, ni de moyens de déplacement. À Makunda, ils utilisent des motos des particuliers pour sortir. Et quand c'est chaud, tout le monde, même quand il y a des rumeurs, tout le monde est en tenue civile pour se camoufler dans la population. Mais face à cette armada que vous avez de l'autre côté, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc moi je dis que l'état-major expose nos facas, expose nos concitoyens.
C'est vrai.
Et c'est pas normal.
C'est pas que
on ne peut pas, le ministère de la Défense est en train d'exposer nos facas. Et ça me fait mal. Quand j'arrive à ces frontières, j'arrive à ces zones, je vois tout ce nombre de l'autre côté et de notre côté, il n'y a rien. Et comment est-ce qu'on peut faire face à ces gens?
Mais vous le savez que l'armée est en reconstruction.
Oui, l'armée est en reconstruction, mais nous avons des partenaires, nous avons des amis. Nous avons 20 facas qui sont pris en otage. Et d'après la révélation que l'aîné vient de donner ici, il y a une colonne qui est venue de l'autre côté. Ils ont traversé Gaillardon jusqu'à pour arriver à Nda et les a déposés pour aller attaquer Sikikédé. Moi, j'ai vécu dans ces zones. Je connais cet endroit où il est en train de parler. Mais aujourd'hui, s'ils quittent là-bas jusqu'à arriver ici, ça veut dire qu'il y a un problème.
Laissez aller.
Ouais. Et donc,
pas laisser aller,
mais vous avez parlé plusieurs minutes. Je veux que au niveau sur le plan interne que des responsables. Normalement, beaucoup doivent déjà démissionner.
Quand il parle
dans un état normal, les gens doivent déjà démissionner.
Les responsabilités, il faut aussi situer les responsables parce que depuis vous n'avez que parler du gouvernement, de l'état-major, etc. Alors que nous savons très bien
également
des complicités. Quand vous parlez également parler de ces opposants qui déjà commencent à préméditer.
Les opposants ne nous dirigent pas. Moi, je ne suis pas dirigé par un opposant.
Tu n'es pas dirigé par. Mais il y a des complicités.
Je suis guidé par.
Il y a des complicités.
Je suis guidé par des personnes élues.
Situer les responsables.
La responsabilité de guider l'État. Et aujourd'hui, si je dois me plaindre, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est à ces personnes qui ont reçu la légitimité.
Mais vous l'aviez si bien dit, vous l'aviez si bien dans vos interventions.
Je ne suis pas venu
vous avez dit, à ce moment-là, à ce niveau-là, il va falloir.
Monsieur Pounaba, la contribution de tous,
est-ce qu'on peut parler. Est-ce qu'on peut dépasser les discussions, parler de la réalité?
À mon niveau, je ne veux pas qu'on puisse rester dans les considérations partisanes. Qu'on puisse parler vraiment de l'État. Qu'on puisse parler de la République.
Elle semble être partisane.
Non. Vous dites très ça semble. Oui. Mais moi, je suis en train juste de préciser les choses.
À partir du moment où vous parlez des responsabilités.
Je parle des responsabilités parce que des vies sont en otage actuellement.
Des vies sont en otage.
Il y a quelqu'un d'autre pays. Quelqu'un doit être responsable.
Est-ce que je peux intervenir, si c'est possible.
Monsieur, c'est à moi que revient la parole. C'est possible,
s'il vous plaît,
d'arrêter ces choses. C'est possible de prendre des dispositions, d'empêcher pour que cette facture soit prise en otage.
Monsieur Pounaba, je vous en prie. On écoute les autres. Je vous en prie. On écoute les autres.
Disons
Monsieur
tous que c'est des actes terroristes.
Monsieur Pounaba, oui,
je vous
tout ça.
Doit être
terroriste. Monsieur, vous avez
très bien. Voilà. CM, je veux dire ceci. Dépassionnons le débat.
Monsieur le chargé de mission, il est très à l'aise dans ce genre de discussion. Lorsque vous l'entrecoupez automatiquement, il accélère. Je voudrais dire tout simplement que situer les responsabilités, c'est bien beau de le dire. Lorsqu'on parle des actes terroristes, même les États les plus puissants au monde...
Ils sont capables de dévier des actes terroristes.
Soufflez de m'écouter parce que je ne tiens pas un débat de kilomètre 5. Je suis suffisamment outillé pour parler. Je vous en prie, M. Kienzé. Je ne tiens pas un débat du quartier. Monsieur le modérateur, la France a connu ce qu'on appelle une fusillade. Le Stade de France a été fusillé. Et pourtant, ils ont tous les moyens nécessaires pour anticiper sur cette situation.
Même les États-Unis.
Charlie Hebdo a été fusillé. Des gens ont été tués, décimés en pleine capitale de Paris. Un acte terroriste. Dans notre ville, à la frontière, les gens ont été encerclés par des terroristes, kidnappés. C'est un véritable kidnapping. Là, on ne parle même pas d'otages. Les terroristes ont kidnappé avec l'aide d'une force extérieure. Mais au fait, il y a des détails que mon jeune ne maîtrise pas. Je leur donne les détails. Vous savez, nous avons eu ce qu'on appelle une attaque entre-temps avec l'appui de nos partenaires, de nos alliés russes. Et on a suivi ce qu'on appelle le GPS et on est rentré légèrement sur le territoire tchadien, entre guillemets, mais l'enquête internationale a révélé que le poste installé était du côté centrafricain. Et la raison nous a été donnée. Après cette opération, un consensus était dégagé. La ministre des Affaires étrangères de la République centrafricaine a fait le déplacement du Tchad. Un consensus a été trouvé et il y a ce qu'on appelle un tracé des limites opérationnelles de l'armée centrafricaine. De l'autre côté, l'armée tchadienne est établie. Et de notre côté ici, on est stratégique. Puisque l'armée tchadienne a bouclé de l'autre côté, nous devons nous concentrer maintenant pour nettoyer le territoire. C'est pour ça qu'on a mis des postes avancés pour nous permettre éventuellement de concentrer l'armée et nettoyer le territoire. Parce que rien ne pouvait venir du côté du Tchad, puisque c'est déjà ceinturé avec des chars, c'est déjà ceinturé avec l'armée tchadienne.
Est-ce que cela se fait curieusement, en consensus?
Mais bien sûr.
Diplomatiquement parlant.
Diplomatiquement consensuel, bien sûr. Et nous avons ce qu'on appelle la zone des trois frontières, où il y a une équipe tripartite armée qui est là. L'armée centrafricaine, l'armée tchadienne et l'armée soudanaise. À partir de ce moment, on ne pouvait pas imaginer un seul instant qu'une rébellion pouvait quitter du côté du Tchad pour traverser et venir parce qu'on suppose que c'est sécurisé. Et on a ce qu'on appelle un poste avancé. C'est comme ça que le chef de détachement militaire tchadien qui est à la frontière, M. Mamat Nahir, va récupérer des gens avec une colonne, plus de 6 à 7 véhicules BJ-80, où vous allez avoir sensiblement plus de 85 à 100 et quelques éléments pour encercler ne serait-ce qu'une dizaine à quinzaine à vingtaine de FACA. On ne pouvait pas s'attendre à ça.
Mais vous, en tant que maintenant, chargé de mission, vous connaissez ces informations. Ça veut dire que le gouvernement centrafricain est bien informé.
Je vous dis, au fait, je suis en train de parler.
Quelques secondes, je vous
en prie. Je suis en train de parler. Souffrez de m'écouter. Lorsqu'on parle d'anticipation, nous, on a anticipé. Anticipé en ce sens qu'il y a un poste avancé et de l'autre côté, l'armée tchadienne a ceinturé et nous avons une excellente coopération.
Puisque vous l'avez déjà expliqué.
Vous savez pourquoi ça s'est produit? Monsieur Mamat Nahir,
que je ne le connais pas,
a son petit frère, son neveu, qui interviennent sur un chantier d'or au niveau de Sekikede. Il travaille ici sur un chantier d'or et le fait d'avoir l'armée centrafricaine ici n'arrange pas le business. Ils sont obligés de venir percuter pour chercher à pêcher en eau trouble. Voilà. C'est ça la réalité.
Oui, Ben, sur cette question d'anticipation, mais aujourd'hui, on parle de l'unanimité de la jeunesse centrafricaine. C'est pourquoi nous sommes autour de cette table. Il faudrait que la jeunesse soit unanime sur ce qu'elle connaît et sur ce qu'elle ne connaît pas et sur l'intérêt général avant de tenir un langage unanime pour combattre ce qui se passe.
Vous remercie Armando. Je pense que sur ce plateau, nous avons un dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est que nous sommes tous consternés, préoccupés par les dernières attaques subies par nos FACA. Mais je voudrais relever quelque chose par rapport aux échanges un peu vifs qui ont eu lieu entre M. Kiondi et M. Pounaba. Lorsque nous demandons à ce que des responsabilités soient situées par rapport aux derniers événements, cela ne veut pas dire qu'on est forcément contre le gouvernement. Quand on parle d'une situation où des vies ont été ôtées, des pères de famille ont été pris en otage, normalement, il y a ce qu'on appelle la chaîne de commandement. La chaîne de commandement, ça part de l'état-major jusqu'aux éléments qui dirigent les opérations sur le terrain. Hier, j'ai lu j'ai suivi les propos liminaires de la conférence de presse dirigée par le ministre conseiller à la présidence, monsieur Wenezui. Mais il a fait de très 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 bonnes révélations dans sa déclaration. Monsieur Pounaba, c'est certes facile de dire que toutes les grandes nations du monde subissent des attaques terroristes. Mais là-bas, quand les attaques terroristes se produisent, les responsabilités sont situées. Ceux qui ont failli dans la situation sont punis, sont relevés de leur fonction. On fait un réaménagement pour permettre à ce que l'intégrité de l'État soit garantie.
Et des réponses directement sur le terrain.
Des réponses directement sur le terrain. Or, ce qui est arrivé à Tshisekedi, il a fallu peut-être 48 heures après pour que l'état-major nous pende un communiqué. Ça, c'est d'un. De deux, maintenant...
Je vais vous dire pourquoi,
Calmez-vous.
Oui, ça c'est d'un. De deux, M. Daniel Nzewe nous parle ici de la capacité d'anticipation. Il semble rejoindre M. Pounaba qui disait tout à l'heure, il faut à la population coopérer. Oui, la population pourrait tout naturellement coopérer pour que la sécurité soit garantie sur le terrain. Mais tout en sachant qu'il y a des gens qui émargent sur le budget de l'État, qui sont censés assurer les renseignements militaires et civils. Tout en sachant qu'il y a des gens qui émargent en tant que chef d'État-major, qui émargent en tant que commandant de ceci, de cela, sur le budget de l'État centrafricain et qui sont censés faire ce travail, remonter l'information afin que des dispositions nécessaires soient prises pour éviter ces pareilles situations. Je finis maintenant, monsieur Armando. Soyons honnêtes, soyons sincères. Dans le cas de la crise sécuritaire que notre pays traverse aujourd'hui, il y a un certain déficit de capacité opérationnelle de la part de nos FACA. Moi, je suis activiste. Nous recevons des informations de la part de nos parents qui sont sur le terrain, qui sont des soldats sur le terrain. Même les PGA de nos FACA ne leur parviennent pas. Mais comment est-ce que vous voulez à ce que les FACA défendent l'intégrité territoriale lorsqu'ils ne reçoivent pas leurs primes, lorsqu'ils n'ont pas des matériels qu'il faut afin de faire face aux menaces sécuritaires? Voilà. Ce que nous le disons avec patriotisme, mais c'est pas pour gêner M. X ou bien M. Y.
Au regard de ce qui se passe dans les régions du pays, le gouvernement semble être dépassé face aux violences armées, les revendications des groupes armés de l'opposition démocratique pour un dialogue entre les autorités et les forces vives de la nation refont surface. C'est-à-dire, sommes-nous en train de remettre en cause l'accord politique pour la paix et la réconciliation reconnue sous l'appellation de l'accord de Khartoum et le dialogue républicain?
Je pense que la stratégie ici, elle est claire. C'est des stratégies que les gens ont l'habitude de mettre en place. C'est pas aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand il y a un problème auquel le pays fait face, aujourd'hui, il faut mettre en place une stratégie où créer du désordre, après demander à ce qu'il y ait dialogue pour que des gens soient récompensés, qu'on les mette dans le gouvernement. Ça, c'est la stratégie.
Exactement.
Ça, on le sait déjà d'avance. Si aujourd'hui, vous aviez, je reviens encore un peu plus en arrière, pour dire que tout ce que les gens faisaient depuis la France avec la mobilisation ou le mouvement auquel appartient mon jeune frère Ngassan,
j'appartiens à aucun mouvement de rébellion.
Ouais, non, pas aucun mouvement de rébellion. Moi, je parle plutôt...
Monsieur Robert, avec tout le respect que je vous dois, je n'appartiens à aucun mouvement.
Je ne parle pas de quoi, de pas de mouvement.
Non,
je ne parle pas de
mouvement. Une rébellion. Ça, je vous arrête.
Je parle plutôt de mouvement qu'on appelle organisation de la société civile.
Quelle organisation de la société civile à laquelle j'appartiens qui soutient la rébellion? Dites-moi.
Exactement. À travers leurs interventions, à travers leur prise de position
depuis la
France. Je vous
dis, donnez le nom déjà, de cette organisation à laquelle j'appartiens.
Vous êtes porte-parole de quelle organisation de la société civile?
Non, mais vous faites dans la diversion. Bon, C'est des accusations graves, quand même, ce qu'il dit.
C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a des intelligences qu'on voit.
Mais c'est pas mon intelligence qui
parle. À partir du moment où les gens commençaient déjà à préméditer cela, qu'il y aurait.
Non, vous avez déjà dit, mais sur
oui,
le terrain, on
mais
parle
non,
de
sur
ce
le
qui
terrain,
se passe.
Quand les gens parlent,
l'unanimité
quand les gens parlent aujourd'hui,
tous,
quand les gens parlent, quand on parle de l'unanimité, il faut revenir à la notion du patriotisme. Quand on parle du patriotisme, c'est l'amour de la patrie. À partir du moment où le pays est attaqué, on doit tenir. J'attends de la part de nos contradicteurs de pouvoir nous dire quand ils disaient qu'il fallait situer les responsabilités. Je pense pensaient qu'ils allaient également situer les responsabilités.
C'est ce qu'ils ont fait au départ.
Écoutez, ils ont situé les responsabilités plutôt du gouvernement, mais ils n'ont pas parlé de ceux-là qui sont de l'autre côté
et
qui commanditent, qui travaillent en intelligence avec ces groupes. Et donc aujourd'hui, moi, je pense que on doit être unanime.
Vous êtes informé. On va aller vite pour boucler ce chapitre.
Et maintenant, j'ai encore quelques secondes. Donc, quand vous parlez de la réplique, s'ils disent qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de réplique, mais est-ce que les gens gardent toujours leur position du côté de Nda? Je ne pense pas. Il y a eu une réaction de la part du gouvernement. Où ses ennemis, ils savent que c'est des actes terroristes, ils ne pouvaient pas résister devant la puissance du feu de nos forces armées, de défense et de sécurité. Aujourd'hui, ils ont quitté les lieux. Quand l'armée centrafricaine s'est réorganisée pour pouvoir répliquer face à ces attaques.
Vous l'avez déjà dit, je reviens vers vous, monsieur Kianzi. Même s'il y a la diversité d'esprit, de connaissances, etc., mais l'unanimité sur le sujet d'intérêt général. Nous parlons de ce sujet-là qui préoccupe la population centrafricaine, l'insécurité, la résurgence des violences armées à l'intérieur du pays. Pourquoi aujourd'hui on voit une division de la jeunesse sur ce qui se passe aujourd'hui?
Monsieur Armando, avant de répondre à votre question, vous avez constaté que lorsque les autres intervenants parlaient, moi je n'ai pas intervenu pour les entrecouper.
Je ne suis pas intervenu.
Je leur ai donné le respect qu'il faut pour qu'ils puissent s'exprimer librement.
C'est ça.
Alors si je prends la parole, je réclame autant. Même si ça fait mal, je veux qu'ils supportent, qu'ils écoutent, qu'ils me laissent le temps d'expliquer. Parce que les gens nous suivent et les gens veulent comprendre exactement ce qui se passe. C'est la République, il faut qu'on en parle. Nous sommes tous des citoyens, des Centrafricains à part entière et il faut qu'on en parle. Et quand je reviens encore sur cet aspect que vous venez de soulever, l'unanimité, on doit être unanime parce que la République est attaquée. Ok, mais pourquoi la République est attaquée? Je veux que ceux qui nous gouvernent puissent assumer pleinement et correctement leurs responsabilités. Ceux qui ont reçu la légitimité via les urnes pour diriger la vie de la nation, ils ont cette grande responsabilité de porter le pays, de porter la République. Et si moi, j'arrive sur le terrain, je constate des choses, c'est de ma responsabilité de venir en parler pour que les gens puissent se réveiller, qu'ils comprennent que ça ne va pas ailleurs. Et moi, je suis un homme de terrain. J'ai été sur le terrain plusieurs fois. Ça, le SEM, le sait, on s'est rencontré à Boussangwa. Il sait comment je suis un homme de terrain. Moi, j'ai fini, si vous prenez la carte de la République centrafricaine, j'ai fini la République centrafricaine. Aujourd'hui, on est unanime. On condamne que nos frères soient traités de cette manière. Mais maintenant, moi, je veux que ceux qui ont la responsabilité de gérer l'armée puissent prendre leurs responsabilités de telle sorte que de pareilles choses ne se passent pas. Lorsqu'une colonne quitte le Tchad, traverse la frontière, jusque pour arriver à 5 km et qu'on vienne, on puisse encercler. Le service de renseignement n'a pas des informations jusqu'à ce que les gens puissent venir faire leur opération, prendre en otage. Et même actuellement, est-ce que les otages sont sur le territoire centrafricain? Est-ce qu'ils ont regagné le Tchad? Ils sont où? On n'a pas d'informations. Et du coup, on ne doit pas se poser des questions sur cet aspect.
Je pense que le patriotisme aurait voulu
à ce que
nous puissions également.
Je vous ai laissé.
Vous avez déjà terminé les deux minutes.
C'est pas vous qui gérez.
On ne va pas faire un débat dans le désordre. C'est moi qui gère. Je sais comment donner la parole. Je sais comment retirer la parole.
Merci.
Et j'ai un chronogramme ici pour qu'on puisse suivre.
Merci.
J'ai posé la question tout à l'heure. Si la jeunesse est unanime, à travers une organisation, à travers ce que nous faisons, est-ce qu'on ne peut pas mettre fin à tout ce que nous connaissons depuis plus de 10 ans, 15 ans?
Ok, mais l'unanimité, il faut qu'il y ait les conditions, que ces conditions d'unanimité soient créées. Mais lorsque des interventions qui ne cadrent pas avec la vision des uns et des autres est considérée du coup comme opposant, du coup comme quelqu'un qui n'est pas avec nous, du coup, ça peut créer des...
Oui, mais sur le pays, on n'a pas besoin d'avoir, d'avoir de conditions.
Oui, monsieur Zé.
Oui, je n'ai pas besoin de conditions ici.
C'est à moi maintenant.
J'ai dit, il faudrait que
monsieur
Kianzé, ce que vous dites soit accepté.
C'est à moi.
Mais lorsque ce que vous dites n'est pas accepté, n'est pas pris en compte...
C'est une question de cœur.
On parle de la manipulation de la jeunesse, monsieur Zé.
Quand on aime son pays,
c'est... S'il vous plaît, s'il vous plaît.
La jeunesse est active dans ce qu'on
n'a pas besoin de conditions.
Oui, je suis d'accord avec vous, monsieur Armando. Vous savez de quoi nous parlons aujourd'hui? Nous sommes en train de parler d'une attaque terroriste organisée par la CPC. Mais la CPC, c'est quoi? La CPC est mise en place par qui? Par des étrangers ou des Centrafricains? C'est des Centrafricains qui tuent des Centrafricains. C'est ça la vraie responsabilité.
Et ça, l'unanimité, ce que je voulais dire ici.
Exactement. C'est des Centrafricains qui tuent des Centrafricains juste parce qu'ils veulent prendre le pouvoir. Et pour prendre le pouvoir, ils tuent leurs propres frères. C'est ça la vraie responsabilité. Nous avons 5 têtes de la rébellion, 5 coordonnateurs qui sont des coordonnateurs politico-militaires de la Séléka qui était rentrée et qui a marché sur le peuple, sur les corps sans vie, pour s'accaparer du pouvoir de l'État, dégager un chef d'État démocratiquement élu et exercer pendant 8 mois, plus de 10 000 à 15 000 centrafricains ont été tués. C'est ça la responsabilité. Il faut situer les responsabilités. Aujourd'hui, il faudrait que nous ayons le courage de dénoncer avec ferveur ceux qui ont eu à tuer le peuple. Nous sommes dans le présent. Le communiqué du BRDC a été signé par Mboli Goumba Crépin. Il n'a pas condamné ce qui s'est passé au niveau de Nda.
Non, il a condamné.
J'aurais aimé avoir Mboli Goumba ici devant moi. Convoquer un débat.
Je vous en prie.
Je vous en prie. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Invitez-moi Mboli Goumba ici. Je suis prêt pour discuter avec lui par rapport à la situation de ce pays. Voilà les vraies responsabilités. Il faut assumer. Des centrafricains qui tuent des centrafricains juste parce qu'ils veulent prendre le pouvoir. Mais c'est pas de cette manière qu'il faudrait que ça s'arrête un jour.
On ne crée pas de désordre ici, mais c'est comme vous l'avez dit. Je parlais tout à l'heure de la jeunesse qui est active dans ce qui se
maintenant,
passe.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle est victime. Je n'ai pas encore fini mon chrono. Je suis seulement à une minute.
Monsieur Armando. Respectez la police du débat. Vous avez vu, ça fait 2 minutes. Vous le dites comme ça, les gens vont passer au quartier qu'on ne vous donne pas assez de temps pour parler.
Monsieur Armando, le peuple nous suit.
Ça fait 1 minute.
Le peuple nous suit, monsieur Armando.
Est-ce que ce chrono, est-ce que ça fait 1 minute?
Vous ne me laissez pas le temps de parler de manière continue.
Vous le dites, les gens vous pensez que je suis en train de vous couper et je fais faveur à d'autres.
Monsieur Kianzé,
qu'on se respecte dans un premier temps, je vous ai dit que je ne rentre pas dans des débats d'école.
Ok,
nous sommes pas dans les écoles
de m'écouter.
Monsieur Zéwé,
d'accord.
Est-ce que j'ai fait depuis le début?
Est-ce qu'on peut continuer le débat?
On peut continuer.
Je rappelle ici simplement que je dirige le débat. C'est pour gérer parce qu'on a beaucoup de sujets à parvenir. Nous n'avons pas abordé le second sujet. Mais nous sommes en train de parler de la jeunesse. J'ai dit que la jeunesse, elle est en même temps active, dans ce qui se passe. Elle est victime en même temps et bourreau de ce qui se passe sur le terrain. Monsieur Norbert Pounaba, vous présidez le comité d'organisation des élections du nouveau bureau du Conseil national de la jeunesse, mais des voix s'élèvent pour dénoncer l'ingérence politique dans le processus. Où en sommes-nous en ce moment? Parce qu'il faut parler de l'unanimité face à ce qui se passe. Il faut un organe pour coordonner cette unanimité.
Je pense qu'aujourd'hui, le comité avance très bien dans l'organisation. Nous avions 2 objectifs à atteindre. Dans un premier temps, c'est pour organiser les élections du Conseil national de la jeunesse et puis après faire une proposition par rapport au texte de base du Conseil national de la jeunesse. Et donc, pour l'instant, le comité avance très très bien. Nous avons mis en place les conseils d'arrondissement de la jeunesse. On a mis en place les conseils préfectoraux de la jeunesse. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous préparer pour le congrès du Conseil national de la jeunesse. Et donc, je pense à ce niveau, il n'y a pas eu d'ingérence. Quand on parle d'ingérence, je vois pas à quel niveau ça se situe, cette ingérence. Je pense que lors des élections des conseils d'arrondissement de la jeunesse, c'est des jeunes qui viennent voter. Et il n'y a pas, même le comité n'a pas le droit de vote. Quand on veut mettre en place les conseils préfectoraux de la jeunesse, c'est des représentants des conseils sous-préfectoraux de la jeunesse qui viennent élire leur père pour les représenter. Et quand on va également mettre en place le bureau exécutif national, nous allons convier à ce congrès tous ceux qui ont été élus dans les préfectures, c'est-à-dire les représentants préfectoraux, les représentants d'arrondissement, les représentants communaux. Ils viendront et c'est à eux de pouvoir élire leur père. Le comité qui est mis en place, vous l'aviez si bien noté un peu plus haut, qu'il y avait eu des malentendus au sein du Conseil national de la jeunesse, donc où la présidente ne s'entendait pas avec son vice-président et le ministère de la jeunesse, représenté ici par le chargé de mission, M. Nzéwé, le ministère de la jeunesse, a pris le soin de pouvoir les rappeler à l'ordre. Je crois 2 ou 3 fois, il y avait une note d'instruction leur demandant de s'entendre. Après, le ministère de la jeunesse a encore convoqué dans leur cabinet l'ancien bureau. Et puis pour les rappeler encore, alors ça n'a pas marché. Et donc aujourd'hui, il est important qu'en tant que ministère de tutelle, il était important qu'on puisse remettre de l'ordre au niveau du Conseil national de la jeunesse. Et on n'a pas dissous le Conseil national de la jeunesse.
Vous avez dissous l'ancien bureau.
On n'a pas dissous l'ancien bureau. Il faut bien voir l'arrêté. On n'a pas dissous. On a suspendu les activités de l'ancien bureau du Conseil national de la jeunesse. Mais on n'a pas suspendu le bureau parce que c'est tout un processus. Si on suspend le bureau, il devrait y avoir des procédures pour remettre en place le bureau avant de lancer le truc. Mais on a juste suspendu les activités de l'ancien bureau du Conseil national de la jeunesse et demandé à ceux qui contribuent au développement de la jeunesse, etc., les institutions impliquées, de pouvoir envoyer leurs représentants. Des représentants sont envoyés. Une élection a eu lieu à l'interne. C'est à partir de l'issue de cette élection que les membres du comité d'organisation ont été désignés par leur père. Donc, on n'a pas imposé un comité à la jeunesse.
Oui, monsieur Zewé, est-ce que vous pouvez compléter sur cette question d'ingérence? Parce que selon certaines informations que nous avons reçues de l'intérieur du pays, on arrive, les jeunes qui sont plus proches du pouvoir, surtout du gouvernement, on les fait passer comme candidats et après, ils sont désignés ou bien élus par les autres et ils font partie des bureaux sous-préfectoraux et préfectoraux. Et en même temps, nous avons le cas de votre président, le nouveau président élu de Bouka, assassiné il y a cela une semaine.
C'est le simple président sous-préfectoral, oui. C'est pas le président préfectoral.
Oui, il est sous-préfectoral de Bouka. Oui, M. Zewé. Sur cette question, est-ce qu'on peut déjà commencer à travers cette organisation mettre les gens, les jeunes, dans un consensus pour pouvoir participer à la vie politique de leur pays?
Vous savez, Armando, la jeunesse centrafricaine est en même temps victime, mais cette même jeunesse est aussi vecteur. La jeunesse, en même temps, est le problème, mais en même temps, est la solution. Lorsqu'on veut apporter une solution au problème d'un État, on est obligé de passer par la jeunesse. C'est des jeunes qui prennent les armes. Si on décide éventuellement de les sensibiliser pour qu'ils puissent arrêter de prendre les armes, vous allez constater qu'eux-mêmes, ils constituent ce qu'on appelle la solution. C'est pour ça qu'il faut mettre un accent particulier sur le volet jeunesse. Je voudrais dire à M. Pounaba, c'est un conseil que je donne, parce que premièrement, je suis son ancien. Il est sur mes traces, hein, un peu partout. J'ai été chargé de mission au cabinet du Premier ministre. Il est venu quelques années plus tard. J'ai été président de l'ANECA. Il est venu quelques années plus tard. Je suis passé là. J'ai organisé les élections du Conseil national de la jeunesse. Il est venu 3 ans encore après, en train d'organiser les élections du Conseil national de la jeunesse. Il est sur mes pas. Ce que je vais lui donner comme conseil, c'est de fermer les oreilles sur les bruits de l'adversité et garder le regard sur l'objectif qui se trouve être les élections du Conseil national de la jeunesse. Ça ne se passera de commentaires. Les gens diront que vous le vouliez ou non. Les mauvais perdants diront toujours que non, nous avons perdu parce que la politique ne veut pas de nous. Vous allez constater que même certains jeunes proches du pouvoir qui vont venir et qui vont éventuellement échouer vont se retourner pour dire non, ce même pouvoir-là soutenu, un autre contre moi, le pouvoir ne m'apprécie pas et tout ça. Au fait, ça va dans tous les sens.
Mais oui, mais cette ingérence vient de vous, vient de votre part, vient de votre ministère. C'est ce que les gens ont dénoncé.
Vous savez, lorsqu'on parle de l'ingérence du ministère, non, c'est le ministère du tutelle. Comment la tutelle peut s'ingérer du moment où ça dépend? Au fait, regardez, c'est pas appréciable lorsque vous le dites de cette manière, monsieur Armando. Le ministère de la jeunesse et des sports, c'est le ministère de tutelle. Et je tiens à vous dire que le Conseil national de la jeunesse n'est pas une association à caractère syndical. C'est un démembrement, c'est ce que les gens ne savent pas, c'est un démembrement de l'État.
Et donc il faut trouver des gens qui sont favorables à vous.
Non, c'est pas question de trouver quelqu'un de favorable, c'est de trouver quelqu'un qui puisse faire le consensus au niveau de la jeunesse. Alors si on a quelqu'un qui fait le consensus au niveau de la jeunesse, parce que c'est le relais du gouvernement au niveau de la jeunesse. Lorsque, logiquement, j'ai eu à le définir, lorsqu'il y a un conseil de ministres qui se tient et que des grandes résolutions sont prises, le Conseil national de la jeunesse doit être l'organe fêtière, le premier organe à avoir ces résolutions-là. Et à partir de ce moment, on récupère ces résolutions. Le Conseil national de la jeunesse distille cela auprès de la jeunesse centrafricaine et sensibilise sur la question. Donc, c'est ce que je peux vous donner.
Bon, on y revient sur ce point, sensibiliser sur beaucoup de questions. Et donc, il faut que l'équipe soit avec vous pour que ça soit fait.
Que l'équipe soit audible des autres jeunes.
Oui, monsieur Bergassam, sur ce qui se passe aujourd'hui, avec la mise en place du nouveau bureau Conseil national de la jeunesse, il y a des voix, mais on parle de tout ce qui se passe sur le terrain, l'insécurité, etc. Mais avec la complicité de certains jeunes, aussi certains jeunes qui sont actifs, constituent de bourreaux pour les autres, mais il va falloir trouver un consensus, une organisation qui peut aider à ce que le gouvernement, comme a dit M. Zewé, puisse passer le message et demander que les jeunes puissent arrêter d'être enrôlés dans les groupes armés.
Pour un pays comme la République centrafricaine, où les chiffres officiels nous parlent de 70% de représentation des jeunes au sein de la population, je pense réellement que la jeunesse, c'est un levier. C'est à la fois un levier social, mais aussi politique. Et si j'ai encore bonne mémoire, c'était sous la présidence de François Bozizé que le Conseil national de la jeunesse avait vu le jour. À l'époque, au temps de Bozizé, il faut le dire, hein, d'une certaine façon, le Conseil a été un peu très politisé. Quand je dis que le Conseil national de la jeunesse est comme un levier, cela veut dire que c'est un organe qui devrait normalement être la voix de la jeunesse, quelle que soit la diversité ethnique, culturelle, politique, sociale ou économique. Après la parenthèse Bozizé, je pense que le Conseil national de la jeunesse avait eu une certaine crédibilité, non seulement du point de vue national, mais aussi du point de vue international. On a vu, hein, sous la transition, alors que M. Huguet Francis Mongombe dirigeait ce conseil, le bureau n'était pas trop politisé que ça, n'était pas ni proche du pouvoir, ni très proche de l'opposition. Il y avait une certaine relativité dans la représentation de la jeunesse centrafricaine. Et c'est ça qui a permis à ce bureau d'avoir beaucoup de résultats, de lever beaucoup de fonds auprès des partenaires internationaux. Et cela s'inscrit dans la continuité, car quand on voit l'élection de Mme Pamela Derome, moi, j'étais travaillé pour la PISCA, le doyen Zewé faisait partie de ceux qui ont organisé cette élection. Et là encore, c'était pas si politisé que ça, mais c'était vraiment la voix de la jeunesse qui avait été représentée, qui avait été élue. Et ça a aussi permis au bureau qui a succédé à M. Mongombe d'avoir une certaine crédibilité vis-à-vis des partenaires, mais aussi vis-à-vis du gouvernement. Mais moi, ce que je déplore, c'est comment ce bureau avait terminé. D'après mes informations, cela était dû au fait que le bureau avait lancé une consultation de la jeunesse par rapport au projet de changement de la Constitution. C'est là qu'étaient nées les brouilles entre les membres de ce bureau. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand même, je trouve que ça a fragilisé le bureau jusqu'à ce que le ministère s'y invite pour que le bureau soit suspendu, d'après les termes du chargé de mission. Et donc, il était question qu'on puisse donner un sang neuf à la jeunesse centrafricaine à travers l'organisation de nouvelles élections, ce que le comité est en train de le faire. Mais ce que je déplore, je vois qu'il y a eu beaucoup de dérapages dès le moment où le comité avait été mis en place. Les potentiels candidats veulent se montrer en tout cas proches du gouvernement, proches du pouvoir. Et ils le scandent sur les réseaux sociaux sans crainte. Or, quand on parle de la représentativité, quand on parle d'une organisation représentative, il faut que cela prenne en compte toute la diversité. Et si moi, par exemple, je ne suis pas jeune du mouvement Cœur Uni et que je voudrais me reconnaître à travers le Conseil national de la jeunesse et que quelqu'un qui prétend être candidat à la présidence se montre trop proche du pouvoir, ça décrédibilise non seulement le processus, mais ça décrédibilise le bureau qui va être mis en place.
Oui, monsieur Lazakianzi, sur la question, le processus en cours pour l'élection du bureau national du CNJ.
Je ne vais pas revenir sur l'historique, sur ce qui s'est passé jusqu'à ce que le bureau soit suspendu et jusqu'à ce que aujourd'hui un comité soit mis en place pour organiser ces élections. Parce que c'est connu de tous et tout ce qui se passe aujourd'hui, nous suivons sur les réseaux sociaux et de près, nous observons ce qui se passe. Le CEM nous a dit que tout se passe bien, les élections, tout se déroule bien et les choses vont aller. Et encore le doyen Zewé a dit qu'il faut qu'il ferme les oreilles et qu'il va directement à l'objectif. Et l'objectif, c'est connu, mettre quelqu'un qui est de notre côté, quelqu'un qui peut nous écouter, quelqu'un qui peut faire notre volonté. Ça, c'est ce que nous constatons. Parce que, je dis ça pourquoi, prenez d'abord la mise en place du comité, le comité d'organisation. Regardez la configuration du comité. C'est constitué 80% des activistes et des grands leaders de jeunesse MCU. Des grands activistes MCU. D'abord, le comité d'organisation. Le président, le secrétaire général, qui sont c'est eux les moteurs de l'organisation de ces élections. Ils sont tous des grands activistes MCU. Et ils mettent en place, c'est eux qui organisent les élections. Ils partent dans les provinces, ils organisent des élections un peu. Le président, le sous-préfectoral de Bouka qui a été tué, paix à son âme. D'après nos informations, c'est le président de la jeunesse MCU de la localité qui est devenu président sous-préfectoral de la jeunesse. Aujourd'hui, on met en place, on veut organiser des élections où tous les candidats se montrent sur les réseaux sociaux, où ils affichent clairement, allez sur leur page Facebook, vous allez voir, ils affichent clairement qu'ils sont
du parti au pouvoir. Ils affichent ça clairement, sans s'inquiéter, sans rien, et ils le font d'une manière claire et nette, et au vu aussi de tout le monde. Et du coup, il y a moyen à s'inquiéter. Ceux qui ne sont pas du parti au pouvoir, ceux qui sont des jeunes qui ne sont pas issus du parti au pouvoir, est-ce qu'ils vont se reconnaître dans le bureau qui sera mis en place? Première des choses. Deuxièmement, lorsque aujourd'hui, on va organiser les élections, depuis le comité jusqu'au candidat, jusqu'aux ceux qui seront convoqués pour venir organiser, ça va être les moyens de l'État qui vont venir. C'est l'État qui va organiser ces élections. Donc du coup, vous voyez que les jeux sont truqués depuis le début. S'il vous plaît, il y a un aspect très important que j'aimerais rappeler. L'aspect important, c'est que il y a un texte qui a été validé. Il y a un congrès qui a eu lieu du 19 au 21 mai 2021. Où il y a des textes qui régissent le fonctionnement du Conseil national de la jeunesse qui ont été validés. Le doyen Zéoé était là. Le président de la République était venu pour valider ces textes. Et le texte, à peine mis en application, à peine appliqué, aujourd'hui, tout est annulé. Et maintenant, ils sont en train de faire encore valider un autre texte de base. Et éternel recommencement. Tous les moyens mis en place pour mettre en place ces textes, valider tous les autres. Aujourd'hui, ça sera mis de côté. Et parce que dans ces critères, il y a beaucoup de critères qui disqualifient ces jeunes qui ont d'appartenance politique. D'accord. Et du coup, ça pose problème.
Ça pose problème, comme vous l'avez dit. Vous avez épuisé votre chrono. Oui. Vous reprenez la parole. Vous voulez rebondir, puisque vous avez déjà parlé.
Mais avant, comme M. Kionzi nous fait comprendre, hein, parce qu'il est scientifique, il est scientifique au moins. Hein, quand on parle de 80%, je ne sais pas s'il était focalisé sur quoi pour parler des 80%. Le comité est constitué de 19 membres. Dans les 19 membres, je suis président, Ondi Dakila a cité, est secrétaire général. Il a dans le comité les représentants des organisations de la jeunesse à assise nationale. Mm-hmm. Vous avez la PICHCA, vous avez la JR. Je le dis avec preuve parce que quand on avait publié, on a mis les noms des organisations à côté. Ça veut dire que vous avez cité 3 personnes sur 19. Du coup, vous n'avez pas les bonnes informations. Et donc, là, vous spéculez.
Non.
Je suis scientifique. Je sais calculer.
Les trois, c'est. Je parle des moteurs.
Non, tu parles des trois et tu as parlé de 80%.
Vous avez dit le président et l'autre est rapporteur.
Oui, il a cité trois. Il a d'abord. Quand on parle du pourcentage, vous avez cité 3 personnes sur 19. Donc, déjà, en termes de pourcentage, vous avez faussé les données.
Non.
Voilà. Il y a dans ce comité les représentants des taximotos, les représentants de la JICA, GIA, etc., tout, qui constituent le comité. Là, je veux répondre d'abord à cette question. Maintenant, M. Ngassa m'a parlé de la crédibilité du comité. Il a parlé de la crédibilité de M. Mongombe, il a parlé de la crédibilité du bureau dirigé par notre sœur Pamela de Rome. Sans savoir, parce que si aujourd'hui, sur cette table, si on doit parler de ceux qui maîtrisent les organisations de la jeunesse, c'est nous deux. C'est moi et le CMZV parce qu'on a dirigé des grandes organisations de la jeunesse. Et donc, aujourd'hui, nous maîtrisons. Non, tu as été président facultaire. Tu n'as jamais dirigé une grande organisation de la jeunesse comme l'ANECA, comme nous, on a dirigé. Et donc, nous maîtrisons, nous savons comment est-ce que ça fonctionne. Et donc, à partir de ce moment-là, quand on mettait en place le comité, c'est-à-dire qu'il n'a pas les bonnes informations en ce qui concerne le comité qui a organisé les élections de M. Francine Bongombe. Le président du comité était M. Thierry Vakat, qui était proche du pouvoir de Mme Samba Panza à l'époque. Et cela n'a pas fait. Cela ne vous a pas empêché de dire que le bureau a été crédible. Ça veut dire que du coup, vous avez qualifié ce bureau de crédible, bien que les élections ont été organisées par un politique. Comme il le dit, entre guillemets. Le bureau de Mme Deron Pamela.
Il n'y avait pas de texte à l'époque.
Laissez que je termine. Oui. Le bureau de Mme Pamela a été. Le comité a été présidé. La personne qui a dirigé, qui a organisé les élections, c'est M. Danen Zewi qui est chargé de mission au cabinet du ministre de la promotion de la jeunesse.
Vous êtes en train de relever. Il est chargé. On ne parle pas de la tête, mais on parle de processus.
Est-ce que laissez-moi le temps.
Est-ce que le processus.
C'est-à-dire le fait pour vous de me couper, donc vous allez aussi chronométrer. Et donc Monsieur Danen Zewé a mis en place ce bureau dirigé par Madame de Rome. Aujourd'hui, on qualifie le bureau de Madame Pamela de Rome de crédible. Aujourd'hui, un comité est mis en place et nous sommes en train d'organiser les élections parce que je suis chargé de mission à la primature. Comme ça ne convient pas aux autres, ils pensent que le bureau qui va être mis en place, ça va être un bureau.
Non, c'est une question.
Nous sommes en train de nous focaliser sur les textes
des textes de base du Conseil national de la jeunesse en vigueur. Donc tout ce que nous avions donné comme critère, etc., quand vous allez dans les critères d'éligibilité...
Le texte en vigueur ne reconnaît pas votre existence. Votre comité est hors texte.
Vous n'êtes pas juriste.
Monsieur,
non, vous n'êtes pas juriste. Calmez-vous. Calmez-vous. Ça veut dire que je suis en train de vous dire que nous sommes en train de faire un travail.
Monsieur Pounaba.
Nous focalisons sur les textes en vigueur du Conseil national de la jeunesse.
Monsieur Zewé Daniel, merci beaucoup. Monsieur Ben Wilson Gassam, merci beaucoup à vous.
Merci Armando.
Merci beaucoup, monsieur Lazare Kianzi. Monsieur Norbert Pounaba, merci beaucoup. Désolé, le temps nous fait défaut et c'est la magie de la radio. Nous avons passé en revue quelques sujets d'actualité jumelés avec le processus électoral au Conseil national de la jeunesse centrafricaine. Merci à nos invités pour leur participation. Merci à tous d'avoir été des nôtres. D'ici et d'ailleurs, vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur www.radio. Il me reste qu'à vous souhaiter bon week-end et portez-vous bien car on ne vit qu'une seule fois. Au revoir.